On continue dans notre émission, cette fois-ci avec la première chronique mensuelle du CAMO pour personnes handicapées. Le Comité d'adaptation de la main-d'œuvre pour personnes handicapées est un organisme national dont la mission est de favoriser l'accès à la formation et à l'emploi des personnes handicapées. Collaborateurs à Ça vaut le détour, ils vont venir présenter une chronique par mois. Et cette fois-ci, pour la première chronique, on a Franck Bouchard en studio, qui est conseiller au CAMO. Bonjour, Franck.
Bonjour.
Donc, aujourd'hui, en fait, on va parler plus spécifiquement, on va s'attarder sur la question du stage. Donc, le stage en milieu professionnel pour les personnes handicapées qui sont actuellement en formation.
Effectivement, j'aborde peut-être pour cette première chronique-là un sujet qui peut-être n'est pas d'emblée, on dirait, c'est peut-être pas tout à fait relié à l'emploi, mais je pense qu'il y a une importance majeure quand même pour l'accès à l'emploi, la réussite d'un stage. Premièrement, ben, ça permet d'une part la réussite de ce stage-là d'avoir le diplôme. C'est quand même très important, évidemment, pour intégrer un emploi, le diplôme. Si la personne n'a pas réussi pas son stage, échoue son stage, n'a pas le diplôme, ça peut compromettre, évidemment, une intégration future en emploi. Le stage, évidemment, permet aussi l'acquisition d'une expérience de travail. Donc, c'est une première possibilité d'expérience de travail pour les personnes, donc d'aller tout de suite mettre en valeur auprès d'un employeur ses capacités. Donc, c'est sûr que c'est important de réussir ce stage-là. C'est aussi, évidemment, souvent l'occasion que le stage peut se transformer en emploi. Donc, la transition vers le travail peut se réaliser grâce à ce stage-là. Donc, si le stage se déroule bien, ben à la clé, il y a une offre d'emploi qui peut être là offerte par l'employeur. Donc, c'est important, comme par rapport à l'emploi, évidemment, que ça déroule bien, qu'on permette à la personne de réussir ce stage-là. Donc, d'où l'importance pour nous au CAMO, quand même, de toute cette dimension-là pour les personnes en situation de handicap, de réussir, d'accéder, de réussir à ces stages-là.
Et justement, en plus, on est au début février. C'est souvent la période où est-ce que les étudiants vont regarder les offres de stage, vont soumettre des dossiers à des employeurs ou dans des milieux de travail. Quelles sont les choses à savoir, en fait, quand on veut postuler pour un stage si on est une personne en situation de handicap?
Évidemment, il y a toute la question de se questionner d'abord, à savoir est-ce que mes incapacités peuvent être un facteur qui peut compromettre d'aller chercher un stage. Donc, il y a des besoins d'accommodement sur lesquels il faut se questionner. Comme étudiant, est-ce que je suis au fait de la réalité du milieu de travail en termes d'accessibilité, en termes d'horaire, en termes d'exigence, donc qui peut être en contradiction peut-être avec mes capacités. Donc, évidemment, une personne qui se déplace en fauteuil doit quand même valider, évidemment, la possibilité au niveau de l'accessibilité de l'immeuble où se déroulera son stage. Donc, c'est quand même des éléments importants par rapport à ça. Aussi, se questionner au préalable, de se préparer au préalable aussi par rapport aux attentes de l'employeur par rapport à la réussite d'un stage. Donc, évidemment, en termes d'horaire, de disponible sur les lieux de travail, d'être en mesure aussi de pouvoir collaborer avec les autres collègues de travail. Donc, c'est des éléments aussi, lorsque des personnes peuvent avoir des difficultés à cet égard-là, de respect des horaires, etc. Donc, c'est sûr d'être bien au fait aussi que c'est des éléments aussi importants qui vont être mesurés dans le cadre de stage. Donc, non seulement d'être capable de faire le travail, mais aussi d'être capable aussi d'œuvrer dans le milieu de travail. Donc, c'est sûr que c'est important aussi de se préparer par rapport à ça, d'être bien au fait de ces éléments-là.
Et justement, au CAMO, vous êtes en mesure d'identifier parfois justement les obstacles à la réussite d'un stage, mais tout simplement même à l'opportunité de réaliser un stage. Et qu'est-ce que vous amenez à ce moment-là? Une fois qu'il y a une problématique qui est identifiée, qu'est-ce qu'on fait?
Bien, écoutez, pour le travail que nous, on mène au CAMO, évidemment, n'est pas directement sur le terrain. Donc, c'est plutôt des fois de l'aide qu'on va apporter à peut-être des établissements d'enseignement qui peuvent avoir des difficultés à trouver un stage. Qu'est-ce qui serait en termes d'accommodement? Qu'est-ce qui serait possible? Est-ce qu'il y a des lieux de stage plus propices que d'autres par rapport à vos connaissances sur les employeurs, etc.? Donc, il y a des fois, on sera amené à travailler auprès comme ça de responsables de stage ou d'enseignants pour les aider à trouver un lieu qui serait plus propice que pour l'élève ou l'étudiant qu'ils accompagnent. Donc, c'est plus de cet ordre-là que des fois on peut intervenir, nous, au CAMO. En tout cas, on intervient aussi avec, c'est arrivé encore récemment, notamment avec l'ETS, où on a travaillé avec l'ETS, les services adaptés et les responsables des stages à comment mieux comprendre les situations d'accommodement, les obligations légales qui en découlent, les attentes des employeurs, comment tout ça peut se tricoter pour réussir les stages. Donc, il y avait une problématique à l'ETS de difficultés, pas pour tous les élèves en situation de handicap, mais pour un certain nombre qui quand même posaient des problèmes ou posaient en tout cas des questionnements. Et on a travaillé avec les gens de l'ETS comme ça pour permettre de monter, par exemple, une formation, une demi-journée de formation avec les responsables de stage. À l'ETS, c'est très important, c'est une démarration majeure pour la réussite des études. Les gens font des stages de façon régulière. Ça fait partie intégrante
du programme d'enseignement.
Donc, c'est un défi majeur que tous les étudiants se trouvent des stages. Ce n'est pas seulement un stage, même si durant tout leur parcours scolaire, ils vont faire plusieurs stages. Donc, c'est quand même un élément important. Donc, notre rôle d'intervention va peut-être se situer davantage dans ce contexte-là.
Et quelle est la réception des milieux de stage ou des employeurs potentiels? On peut appeler ça comme ça. En fait, ce sont des milieux de travail qui accueillent des étudiants en stage. Quelle est leur perception ou quelle est leur réception une fois qu'ils comprennent, justement, vous parliez des obligations légales par rapport aux accommodements. Qu'est-ce qui est la responsabilité du milieu de stage? Est-ce que c'est bien compris?
Je dirais que oui, c'est bien compris. Quoi qu'il y a toujours des réticences, évidemment. Les employeurs peuvent avoir des craintes, légitimes ou non, par rapport au besoin d'encadrement qui sera fourni auprès de l'étudiant, par rapport à leur capacité de fournir les accommodements, par rapport au degré d'intervention qui sera requis, s'il y a des problématiques, est-ce qu'il y a des gens qui vont pouvoir venir l'aider, des gens de l'établissement, etc. Donc, c'est sûr que de ce point de vue-là, il faut un peu démystifier les auprès des employeurs pour mettre un petit peu à plat ces réticences-là, les éliminer. Et lorsque c'est fait, lorsque c'est bien préparé, lorsqu'on prépare finalement bien l'employeur, mais aussi l'étudiant qui va aller en stage, ces réticences-là vont tomber parce qu'ils vont voir rapidement qu'il y a des possibilités d'accommodement qui peuvent être mises en place, qu'il y a des services adaptés qui peuvent les soutenir. S'il y a une situation qui se présente, ils peuvent donc référer à quelqu'un pour les aider. Ils vont aussi mieux comprendre aussi l'étudiant, sa situation. Évidemment, il y a toujours aussi, dans ce contexte-là, l'importance pour l'étudiant lui-même de dévoiler ou non sa situation d'handicap. Donc, dans ce contexte-là, il y a aussi un enjeu de dévoilement de la situation d'handicap, surtout dans les cas où l'handicap n'est pas nécessairement visible. Si la personne a un trouble de santé mentale, un trouble de spéculotisme, un trouble d'apprentissage, c'est pas visible nécessairement qu'il y a une problématique. Donc, est-ce que l'élève va être à l'aise pour en parler, pour manifester, pour qu'il y a un besoin d'accommodement possible? C'est toujours un enjeu. C'est un droit de ne pas le dire. L'employeur ne peut pas demander s'il y a un besoin d'accommodement. Il n'y a pas le droit de le demander. Disons, la pratique courante, on recommande aux étudiants de mettre de l'avant ses besoins d'accommodement, mais c'est toujours du cas par cas, évidemment, tout dépendant de la capacité de l'élève à être autonome et de bien gérer ses besoins de lui-même, ou alors s'il y a vraiment des besoins qui doivent être identifiés et mis en place chez l'employeur. Donc, c'est toujours aussi ça un enjeu qui est important.
C'est délicat.
C'est toujours délicat, effectivement.
C'est du cas par cas. Quelles sont les ressources qui sont mises à disposition des employeurs ou des milieux de stage?
Bien, d'abord, les ressources, évidemment, de l'établissement lui-même, de l'établissement d'enseignement. Il y a des services adaptés, des conseillers qui peuvent être là pour soutenir l'employeur, l'étudiant. Le personnel aussi dans les établissements qui s'occupent des stages, les responsables de stage, souvent ils vont travailler de concert. Les services adaptés, les responsables de stage, les enseignants vont travailler de concert pour soutenir l'employeur au besoin. Donc, ça, c'est une ressource. Il y a aussi d'autres éléments, peut-être plus, promotionnel, si on pourrait dire, dans le sens où l'employeur, évidemment, quelle sorte d'incitatif il a aussi à embaucher, pas embaucher, mais d'offrir un stage à un étudiant en situation de handicap. Le gouvernement du Québec offre depuis plusieurs années des crédits d'impôt pour tous les stagiaires, premièrement, peu importe qu'ils soient en situation de handicap ou non, il y a un crédit d'impôt qui est offert aux employeurs plus les employeurs du milieu privé, parce que, bon, évidemment, il faut payer de l'impôt.
Mais c'est parfois un incitatif.
C'est un incitatif. Et du côté, lorsque l'étudiant qui est accueilli en stage est en situation d'handicap, ces crédits d'impôt-là sont bonifiés. Donc, ça peut être intéressant pour ouvrir davantage la porte aux étudiants en situation de handicap par rapport à ça, parce que l'employeur, bon, si ses inquiétudes sont sur le fait qu'il a besoin de donner plus d'encadrement, bien, ces coûts supplémentaires-là peuvent être compensés par un crédit d'impôt plus important, des dépenses plus importantes reconnues dans ce contexte-là.
Est-ce qu'il y a un niveau scolaire où se trouver un stage, si on est en situation de handicap, est plus difficile? On évoque, entre autres, l'exemple de l'ETS, c'est un niveau universitaire. Est-ce qu'au niveau secondaire, par exemple, parce qu'il y en a des formations plus, justement, soit formation spécialisée ou différents métiers plus manuels, même au collégial, le nombre de techniques qu'on retrouve au cégep, est-ce que ce sont des milieux qui sont différents ou plus difficiles?
Je dirais que peut-être du côté de la formation professionnelle, ça peut être un enjeu plus important, dans le sens où on ne retrouve pas dans les centres de formation professionnelle des services adaptés comme il y a au cégep, comme il y a aux universités. La préparation des étudiants, le support qu'on peut donner à un éventuel employeur est peut-être moins grand, en tout cas moins aisé de le fournir. Les ressources sont moins présentes dans les centres de formation professionnelle. Donc, il y a peut-être un enjeu plus important, un défi plus important. Effectivement, en plus, on parle d'employeurs souvent, donc des métiers plus manuels, plus techniques, des fois les adaptations, comment elles peuvent être mises en place, les accommodements. Des fois, c'est peut-être plus compliqué si on parle d'appareillage, etc. Donc, ça, c'est à voir. Donc, il peut y avoir un enjeu. Je ne dis pas que c'est problématique pour l'ensemble des étudiants, des élèves, mais ça peut être effectivement un enjeu plus important, étant donné la capacité peut-être moindre des centres de formation de fournir de l'aide à la fois à l'étudiant et à l'employeur qui va accueillir le stagiaire.
Et j'aimerais qu'on aborde quand même le risque d'échouer le stage ou les conséquences que ça peut avoir chez les étudiants.
Bien, c'est sûr que l'échec du stage peut entraîner d'abord peut-être une remise en question du choix de formation par l'étudiant. Si la personne est incapable de réussir son stage, il y a un risque de ne pas être diplômé, comme je le disais au début. Est-ce que ça signifie à ce moment-là que l'étudiant devrait faire un nouveau choix de carrière, étant donné qu'il est dans l'impossibilité de compléter sa formation? Donc, il est sûr qu'il y a des conséquences importantes. De plus en plus, les milieux essaient d'introduire des stages plus tôt dans le processus, et non pas à la fin, pour éviter évidemment à la personne, après un an, deux ans, trois ans d'études, il échoue son stage et toutes ces années-là sont d'une certaine manière perdues.
On essaie notamment dans le milieu de l'enseignement, c'est une réforme qu'il y a eu pour permettre de tester dans une vraie classe.
Dans une vraie classe, effectivement. Donc, question, effectivement, que la personne sache rapidement. On propose même dès le départ, si on voit même durant le début de la formation qu'il peut y avoir des problématiques, on suggère à l'étudiant, est-ce que tu pourrais pas aller faire un stage d'un jour pour voir, effectivement, valider des choses, peut-être voir si, jusqu'à quel point c'est réaliste, le choix que tu as fait. Donc, ça fait partie des stratégies pour essayer d'éviter ces conséquences-là qu'à la fin d'un parcours scolaire, ça mène à un échec parce que le stage n'est pas possible, parce que le stage est échoué et dans ce contexte-là, il n'y a pas de diplomation possible. Donc, il y a un grand souci de la part des milieux étudiants pour éviter ce type de conséquences-là. Évidemment, l'étudiant lui-même est libre de choisir ou non, de poursuivre ou non. Il y a comme une obligation de fournir l'accommodement dans les milieux d'enseignement. L'étudiant, s'il souhaite continuer, malgré toutes les précautions qu'on aura pu lui dire par rapport à son choix de carrière, peut-être que ça ne fonctionne pas. S'il décide, bien écoutez, ce sera à lui d'assumer ce choix-là.
Oui, oui, parce qu'évidemment, l'étudiant reste tout de même maître de sa décision. En ce qui concerne, et je ne sais pas si vous êtes en mesure de me répondre, les étudiants qui ont des besoins plus particuliers au niveau de la santé, par exemple, qui vont avoir des traitements de physiothérapie à l'extérieur ou qui doivent peut-être, ils ne peuvent pas passer une longue période de temps assis ou debout, dépendamment de ce qu'on doit faire. Et donc, ça peut avoir un impact, même léger, sur l'horaire qu'on doit avoir. Est-ce qu'il y a des ressources pour justement pallier à ces manques-là au niveau du temps qui est accordé au milieu de travail ou alors ou est-ce qu'il y a des ressources qui peuvent venir rassurer finalement l'employeur, sachant que ça serait quelque chose, ce serait une situation qu'il va vivre dans son milieu professionnel sur le long terme?
Est-ce que
on rentre dans autre chose, mais c'est des problématiques avec lesquelles on peut arriver finalement, en disant moi, j'ai pas de problème à l'intégration, je nécessite pas d'équipement particulier, c'est très accessible. Par contre, c'est au niveau de mon corps ou de la santé, je dois inclure un certain nombre d'heures de repos dans ma semaine, par exemple. Et parfois, il y a certains stages qui sont très exigeants ou sur des longues périodes de temps, 15 semaines parfois. Qu'est-ce que vous faites lorsqu'on arrive avec une problématique
Une
comme ça?
problématique semblable, je pense que ça doit être examiné avec l'employeur jusqu'à quel point il est possible de mettre en place ce type d'accommodement-là, d'une certaine manière. Jusqu'à quel point l'aménagement d'un horaire différent peut être possible. Jusqu'à quel point il peut être possible de donner effectivement des congés périodiques à la personne parce qu'elle a besoin d'aller faire un traitement ou quoi que ce soit. Ça prend des employeurs ouverts. Ça prend des milieux de travail qui puissent offrir une certaine flexibilité. C'est pas le cas de tous, là, on s'entend là-dessus. Même si, effectivement, ça peut être un enjeu majeur pour bien des personnes. De plus en plus, nous, en tout cas au CAMO, lorsqu'on parle aux employeurs, on leur fait aussi réfléchir à ces questions-là. L'accommodement, c'est pas seulement d'offrir un outil ou une porte plus qui s'ouvre toute seule ou quoi que ce soit. Ça peut aussi faire partie d'éléments reliés aux horaires de travail, aux méthodes de travail, à l'organisation du travail lui-même, les tâches à donner, est-ce qu'on peut les répartir différemment? Donc, ça fait aussi partie des éléments un peu de conciliation que les employeurs, de plus en plus, en tout cas, ont à prendre en considération s'ils sont sérieux dans leur volonté d'embaucher des personnes en situation de handicap et pas seulement celles pour lesquelles bon, on va mettre un accommodement. Une fois, c'est fait, c'est réglé, on n'en parle plus, la personne, ça va bien, ça, c'est tant mieux, mais il y a des cas beaucoup plus comme ça, beaucoup plus complexes, qu'il faut que l'employeur soit prêt aussi à penser à ces éléments-là. Parce que nous, on a fait la promotion CAMO lorsqu'on parle avec les employeurs. On les dit que la situation d'handicap sont très variables et que les accommodements aussi doivent l'être et de repenser pas seulement aux aménagements physiques, mais à l'ensemble de l'organisation du travail.
Donc, il y a un travail en amont qui est fait de votre part au CAMO. Merci beaucoup, Franck Bouchard. Vous êtes conseiller au CAMO, le comité d'adaptation de la main-d'œuvre pour personnes handicapées. Merci pour cette première chronique. On se revoit bientôt.
Ça m'a fait plaisir. Merci. Au revoir.